Le capital sans les notes. Livre premier, troisième section, chapitre grand 9, grande 2. Expression de la valeur du produit en partie proportionnelle du même produit. Reprenons l'exemple qui nous a servi à montrer comment le capitaliste transforme son argent en capital. Le travail nécessaire de son fileur se montait à 6 heures, de même que le surtravail. Le degré d'exploitation du travail s'élevait donc à 100%. Le produit de la journée de 12 heures est 20 livres de filet, d'une valeur de 30 shillings. Pas moins des 8 dixièmes de cette valeur, ou 24 shillings, sont formés par la valeur des moyens de production consommés, des 20 livres de coton à 20 shillings, des broches à 4 shillings, valeur qui ne fait que réapparaître. Autrement dit, 8 dixièmes de la valeur des filets consistent en capital constant. Les 2 dixièmes qui restent sont la valeur nouvelle de 6 shillings, engendrée pendant le filage, dont une moitié remplace la valeur journalière de la force de travail qui a été avancée, c'est-à-dire le capital variable de 3 shillings, et dont l'autre moitié forme la plus-value de 3 shillings. La valeur totale de 20 livres de filet est donc composée de la manière suivante. Valeur en filet de 30 shillings égale 24 shillings pour petit c plus 3 shillings pour petit v plus 3 shillings pour petit p. Puisque cette valeur totale se représente dans le produit de 20 livres de filet, il faut que les divers éléments de cette valeur puissent être exprimés en partie proportionnelle du produit. S'il existe une valeur de 30 shillings dans 20 livres de filet, 8 dixièmes de cette valeur ou sa partie constante de 24 shillings existeront dans 8 dixièmes du produit ou dans 16 livres de filet. Sur celle-ci, 13 livres un tiers représentent la valeur de la matière première, des 20 livres de coton qui ont été filés, soit 20 shillings, et 2 livres deux tiers, la valeur des matières auxiliaires et des instruments de travail consommés, broches, etc., soit 4 shillings. Dans 13 livres un tiers de filet, il ne se trouve, à vrai dire, que 13 livres un tiers de coton, d'une valeur de 13 shillings un tiers. Mais leur valeur additionnelle de 6 shillings deux tiers forme un équivalent pour le coton contenu dans les 6 livres deux tiers de filet qui restent. Les 13 livres un tiers de filet représentent donc tout le coton contenu dans le produit total de 20 livres de filet. La matière première du produit total, mais aussi rien de plus. C'est donc comme si tout le coton du produit entier eût été comprimé dans 13 livres un tiers de filet, et qu'il ne s'en trouva plus un brin dans les 6 livres de tiers restantes. Par contre, ces 13 livres un tiers de filet ne contiennent dans notre cas aucun atome, ni de la valeur des matières auxiliaires et des instruments de travail consommés, ni de la valeur nouvelle créée par le filage. De même, les autres 2 livres deux tiers de filet qui composent le reste du capital constant égale 4 shillings ne représentent rien autre chose que la valeur des matières auxiliaires et des instruments de travail consommés pendant tout le cours de la production. Ainsi donc, 8 dixièmes du produit ou 16 livres de filet, bien que formés en tant que valeur d'usage par le travail du fileur, tout comme les parties restantes du produit, ne contiennent dans cet ensemble pas le moindre travail absorbé pendant l'opération même du filage. C'est comme si ces 8/10 s'étaient transformés en filets sans l'intermédiaire du travail, et que leur forme filée ne fut qu'illusion. Et en fait, quand le capitaliste les vend 24 shillings et rachète avec cette somme ses moyens de production, il devient évident que 16 livres de filets ne sont que coton, broche, charbon, etc., déguisés. D'un autre côté, les 2/10 du produit qui reste, ou 4 livres de filet, ne représentent maintenant rien autre chose que la valeur nouvelle de 6 shillings produite dans les 12 heures qu'a duré l'opération. Ce qu'il contenait de la valeur des matières et des instruments de travail consommés leur a été enlevé pour être incorporé aux 16 premières livres de filet. Le travail du fileur, matérialisé dans le produit de 20 livres de filet, est maintenant concentré dans 4 livres, dans 2/10 du produit. C'est comme si le fileur avait opéré le filage de ces 4 livres dans l'air, ou bien avec du coton et des broches qui, se trouvant là gratuitement, sans l'aide du travail humain, n'ajouteraient aucune valeur au produit. Enfin, de ces 4 livres de filet où se condense toute la valeur produite en 12 heures de filage, une moitié ne représente que l'équivalent de la force de travail employée, c'est-à-dire que les 3 shillings de capital variable avancé, l'autre moitié que la plus-value de 3 shillings. Puisque 12 heures de travail du fileur se matérialise en une valeur de 6 shillings, la valeur des filets montant à 30 shillings représente donc 60 heures de travail. Elle existe dans 20 livres de filets, dont 8/10 ou 16 livres sont la matérialisation de 48 heures de travail qui ont précédé l'opération du filage, du travail contenu dans les moyens de production des filets, et dont 2/10 ou 4 livres de filets sont la matérialisation des 12 heures de travail dépensées dans l'opération du filage. Nous avons vu plus haut comment la valeur totale des filets égale la valeur enfantée dans leur production, plus les valeurs déjà préexistantes dans leurs moyens de production. Nous venons de voir maintenant comment les éléments fonctionnellement différents de la valeur peuvent être exprimés en partie proportionnelle du produit. Cette décomposition du produit, du résultat de la production, en une quantité qui ne représente que le travail contenu dans les moyens de production ou la partie constante du capital, en un autre quantum qui ne représente que le travail nécessaire ajouté pendant le cours de la production ou la partie variable du capital, et en un dernier quantum qui ne représente que le surtravail ajouté dans ce même procédé ou la plus-value, cette décomposition est aussi simple qu'importante, comme le montrera plus tard son application à des problèmes plus complexes et encore sans solution. Au lieu de décomposer ainsi le produit total obtenu dans une période, par exemple une journée, en quotes-parts représentant les divers éléments de sa valeur, on peut arriver au même résultat en représentant les produits partiels comme provenant de quotes-parts de la journée de travail. Dans le premier cas, nous considérons le produit entier comme donné, dans l'autre, nous le suivons dans ses phases d'évolution. Le fileur produit en 12 heures 20 livres de filet. En une heure, par conséquent, 1 livre de tiers. Et en 8 heures, 13 livres 1/3. c'est-à-dire un produit partiel valant à lui seul tout le coton filé pendant la journée. De la même manière, le produit partiel de l'heure et des 36 minutes suivantes égale 2 livres de tiers de filet et représente par conséquent la valeur des instruments de travail consommés pendant les 12 heures de travail. De même encore, le fileur produit dans les 75 minutes qui suivent 2 livres de filet valant 3 shillings, une valeur égale à toute la valeur qu'il crée en 6 heures de travail nécessaire. Enfin, dans les dernières 75 minutes, il produit également 2 livres de filet dont la valeur égale la plus-value produite par sa demi-journée de surtravail. Le fabricant anglais se sert pour son usage personnel de ce genre de calcul. Il dira, par exemple, que dans les 8 premières heures ou 2 tiers de la journée de travail, il couvre les frais de son coton. Comme on le voit, la formule est juste. C'est en fait la première formule transportée de l'espace dans le temps. De l'espace où les parties du produit se trouvent toutes achevées et juxtaposées les unes aux autres, dans le temps où elles se succèdent. Mais cette formule peut en même temps être accompagnée de tout un cortège d'idées barbares et baroques, surtout dans la cervelle de ceux qui, intéressés en pratique à l'accroissement de la valeur, ne le sont pas moins en théorie à se méprendre sur le sens de ce procès. On peut se figurer, par exemple, que notre fileur produit ou remplace dans les 8 premières heures de son travail la valeur du coton, dans l'heure et les 36 minutes suivantes, la valeur des moyens de production consommés, dans l'heure et les 12 minutes qui suivent, le salaire, et qu'il ne consacre au fabricant pour la production de la plus-value que la célèbre « dernière heure », entre guillemets. On attribue ainsi au fileur un double miracle. Celui de produire coton, broche, machine à vapeur, charbon, huile, etc. à l'instant même où il file au moyen d'eux, et de faire ainsi d'un jour de travail 5. Dans notre cas, par exemple, la production de la matière première et des instruments de travail exige 4 journées de travail de 12 heures. Et leur transformation en filet exige de son côté une autre journée de travail de 12 heures. Mais la soif du lucre fait croire aisément à de pareils miracles et n'est jamais en peine de trouver le sycophante doctrinaire qui se charge de démontrer leur rationalité. C'est ce que va nous prouver l'exemple suivant d'une célébrité historique. Grand 3. La dernière heure de Senior. Par un beau matin de l'année 1836, Nassau W. Senior, que l'on pourrait appeler le normalien des économistes anglais, également fameux par sa science économique et son « beau style », entre guillemets, fut invité à venir apprendre à Manchester l'économie politique qu'il professait à Oxford. Les fabricants l'avaient élu leur défenseur contre le Factory Act nouvellement promulgué et l'agitation des 10 heures qui allait encore au-delà. Avec leur sens pratique ordinaire, ils avaient cependant reconnu que « monsieur le professeur » ouvrez les guillemets, « wanted a good deal of finishing » fermez les guillemets, avait grand besoin du coup de pouce de la fin. Note de la donneuse de voix, F-I-N, fin de la note de la donneuse de voix, pour être un savant accompli. Ils le firent donc venir à Manchester. Le professeur mit en style fleuri la leçon que lui avaient faite les fabricants dans le pamphlet intitulé « Letters on the Factory Act as it affects the cotton manufacture » London, 1837. Il est d'une lecture récréative, comme on peut en juger par le morceau suivant. Avec la loi actuelle, aucune fabrique qui emploie des personnes au-dessous de 18 ans ne peut travailler plus de 11h30 par jour, c'est-à-dire 12h pendant les 5 premiers jours de la semaine et 9h le samedi. Eh bien, l'analyse, point d'exclamation entre crochets, suivante, démontre que, dans une fabrique de ce genre, tout le profit net provient de la dernière heure. Un fabricant dépense 100 000 livres sterling. 80 000 livres sterling en bâtiments et en machines. 20 000 livres en matières premières et en salaire. En supposant que le capital fasse une seule évolution par an et que le profit brut atteigne 15%. La fabrique doit livrer chaque année des marchandises pour une valeur de 115 000 livres sterling. Chacune des 23 demi-heures de travail produit chaque jour 515e ou 1/23e de cette somme. Sur ces 23/24e qui forment l'entier des 115 000 livres sterling, ouvrez la parenthèse, constituting the whole 115,000 pounds, fermez la parenthèse, 20/23e, c'est-à-dire 100 000 livres sterling sur les 115 000, remplacent ou compensent seulement le capital. 1/23e ou 5 000 livres sterling sur les 15 000 de profit brut, point d'exclamation entre crochets, couvre l'usure de la fabrique et des machines. Les 2/23e qui restent, les 2 dernières demi-heures de chaque jour, produisent le profit net de 10%. Si donc, les prix restant les mêmes, la fabrique pouvait travailler 13 heures au lieu de 11h30 et qu'on augmenta le capital circulant d'environ 2600 livres sterling, le profit net serait plus que doublé. D'un autre côté, si les heures de travail étaient réduites d'une heure par jour, le profit net disparaîtrait. Si la réduction allait jusqu'à 1h30, le profit brut disparaîtrait également. Fermez les guillemets. S'il ajoutait foi aux lamentations des fabricants, s'il croyait que les travailleurs consacrent la meilleure partie de la journée à la reproduction ou au remplacement de la valeur des bâtiments, des machines, du coton, du charbon, etc., alors toute analyse devenait chose oiseuse. Ouvrez les guillemets. Messieurs, avait-il à répondre tout simplement, si vous faites travailler 10 heures au lieu de 11h30, la consommation quotidienne du coton, des machines, etc., toutes circonstances restant égales, diminuera de 1h30. Vous gagnerez donc tout juste autant que vous perdrez. Vos ouvriers dépenseront à l'avenir 1h30 de moins à la reproduction ou au remplacement du capital avancé. Fermez les guillemets. Pensait-il au contraire que les paroles de ces messieurs demandaient réflexion et jugeait-il en qualité d'expert une analyse nécessaire? Alors il devait avant tout, dans une question qui roule exclusivement sur le rapport du bénéfice net à la grandeur de la journée de travail, prier les fabricants de ne pas mettre ensemble, dans le même sac, des choses aussi disparates que machines, bâtiments, matières premières et travail, et de vouloir bien être assez bon pour poser le capital constant contenu dans ces machines, matières premières, etc., d'un côté, et le capital avancé en salaire de l'autre. S'il trouvait ensuite, par hasard, que d'après le calcul des fabricants, le travailleur reproduit ou remplace le salaire dans 2/23e de sa journée ou dans 1 heure, L'analyste avait alors à continuer ainsi. Ouvrez les guillemets. Suivant vos données, le travailleur produit dans l'avant-dernière heure son salaire et dans la dernière votre plus-value ou bénéfice net. Puisqu'il produit des valeurs égales dans des espaces de temps égaux, le produit de l'avant-dernière heure est égal au produit de la dernière. De plus, il ne produit de valeur qu'au temps qu'il dépense de travail, et le quantum de son travail a pour mesure sa durée. Cette durée, d'après vous, est de 11h30 par jour. Il consomme une partie de ses 11h30 pour la production ou le remboursement de son salaire, l'autre partie pour la production de votre profit net. Il ne fait rien de plus tant que dure la journée de travail. Mais puisque, toujours d'après vous, son salaire et la plus-value qu'il vous livre sont des valeurs égales, il produit évidemment son salaire en 5h3/4 et votre profit net dans les autres 5h3/4. Comme de plus, les filets produisent en 2 heures équivalent à son salaire plus votre profit net, cette valeur doit être mesurée par 11h30 de travail, le produit de l'avant-dernière heure par 5h3/4, celui de la dernière également. Nous voici arrivés à un point délicat. Ainsi, attention. L'avant-dernière heure de travail est une heure de travail, tout comme la première. Ni plus, ni moins. Comment donc le fileur peut-il produire en une heure de travail une valeur qui représente 5h3/4? En réalité, il n'accomplit point un tel miracle. Ce qu'il produit en valeur d'usage dans une heure de travail est un quantum déterminé de filets. La valeur de ces filets est mesurée par 5h3/4 de travail, dont 4h3/4 sont contenus, sans qu'il y soit pour rien, dans les moyens de production, coton, machines, etc., consommés, et dont 4/4 ou 1 heure a été ajouté pour lui-même. Puisque son salaire est produit en 5h3/4 et que les filets qu'il fournit en 1 heure contiennent la même somme de travail, il n'y a pas la moindre sorcellerie à ce qu'il ne produise en 5h3/4 de filage qu'un équivalent des filets qu'il produit dans une seule heure. Mais vous êtes complètement dans l'erreur si vous vous figurez que l'ouvrier perde un seul atome de son temps à reproduire ou à remplacer la valeur du coton, des machines, etc. Par cela même que son travail convertit coton et broche en filets, par cela même qu'il file, la valeur du coton et des broches passe dans les filets. Ceci n'est point dû à la quantité, mais à la qualité de son travail. Assurément, il transmettra une plus grande valeur de coton, etc., en 1 heure qu'en 1/2 heure, mais tout simplement parce qu'il file plus de coton dans le premier cas que dans le second. Comprenez-le donc bien une fois pour toutes. Quand vous dites que l'ouvrier, dont la journée compte 11h30, produit dans l'avant-dernière heure la valeur de son salaire et dans la dernière le bénéfice net, cela veut dire tout bonnement que dans son produit de 2 heures, que celle-ci se trouve au commencement ou à la fin de la journée, juste autant d'heures de travail sont incorporées qu'en contient sa journée de travail entière. Et quand vous dites qu'il produit dans les premières 5h3/4 son salaire et dans les dernières 5h3/4 votre profit net, cela veut dire encore tout simplement que vous payez les premières et que pour les dernières, vous ne les payez pas. Je parle de paiement du travail au lieu de paiement de la force de travail pour me conformer à votre jargon. Si maintenant vous examinez le rapport du temps de travail que vous payez au temps de travail que vous ne payez point, vous trouverez que cette demi-journée pour demi-journée, c'est-à-dire 100%, ce qui assurément est le taux d'un bénéfice assez convenable. Il n'y a pas non plus le moindre doute que si vous faites travailler vos bras 13 au lieu de 11h30 et que vous annexiez simplement cet excédent au domaine du surtravail, ce dernier comprendra 7 1/4 au lieu de 5h 3/4 et le taux de la plus-value s'élèvera de 100% à 126 2/23e%. Mais vous allez par trop loin si vous espérez que l'addition de 7h30 élèvera votre profit de 100 à 200% ou davantage, ce qui ferait, ouvrez les guillemets, plus que le doublé, fermez les guillemets. D'un autre côté, le cœur de l'homme est quelque chose d'étrange, surtout quand l'homme le porte dans sa bourse. Votre pessimisme frise la folie. Si vous craignez que la réduction de la journée de 11h30 à 10h30 fasse disparaître tout votre profit net. Toutes circonstances restant les mêmes, le surtravail tombera de 5h3/4 à 4h3/4, ce qui fournira encore un taux de plus-value tout à fait respectable, à savoir 82 14/23e%. Les mystères de cette « dernière heure » entre guillemets, sur laquelle vous avez débité plus de comptes que les chiliastes sur la fin du monde, tout cela est « all bosh » entre guillemets, de la blague. Sa perte n'aura aucune conséquence funeste. Elle n'ôtera ni à vous votre profit net, ni aux enfants des deux sexes que vous consommez productivement, cette, ouvrez les guillemets, pureté d'âme, fermez les guillemets, qui vous est si chère. Quand une bonne fois, votre dernière heure sonnera, pensez au professeur d'Oxford. Et maintenant, c'est dans un monde meilleur que je désire faire avec vous plus ample connaissance. Salut. Fermez les guillemets. C'est en 1836 que Senior avait fait la découverte de sa « dernière heure » entre guillemets. 8 ans plus tard, le 15 avril 1848, un des principaux mandarins de la science économique officielle, James Wilson, dans « L'économiste de Londres », à propos de la loi des 10 heures, entonna la même ritournelle sur le même air. Grand 4. Le produit net. Nous nommons produit net, ouvrez la parenthèse, surplus produce, fermez la parenthèse, la partie du produit qui représente la plus-value. De même que le taux de celle-ci se détermine par son rapport, non avec la somme totale, mais avec la partie variable du capital, de même, le montant du produit net est déterminé par son rapport, non avec la somme restante, mais avec la partie du produit qui représente le travail nécessaire. De même que la production d'une plus-value est le but déterminant de la production capitaliste, de même, le degré d'élévation de la richesse se mesure, non d'après la grandeur absolue du produit brut, mais d'après la grandeur relative du produit net. La somme du travail nécessaire et du surtravail, des parties de temps dans lesquelles l'ouvrier produit l'équivalent de sa force de travail et la plus-value, cette somme forme la grandeur absolue de son temps de travail, c'est-à-dire la journée de travail, working day, entre parenthèses.